Dieu vous bénisse, ça va bien? On est encore vendredi, comme chaque vendredi. J'ai remarqué que c'est chaque vendredi, c'est vendredi. Mais aujourd'hui, c'est un vendredi un peu spécial parce que regardez ce qui est sorti. L'évangile de Thomas. Ça y est, il est en livre de poche et bientôt il sera disponible sur révélationbible.com. Mais pour les frères et sœurs de la communauté, ils sont là, mais on ne sait pas encore le prix parce que l'imprimeur n'a pas encore fait la facture. Alors, moi, je ne peux pas vous dire quand même. Enfin, par la foi, vous en prenez et puis on verra après. Hein. Donc voilà, c'est un bel ouvrage. J'ai mis à peu près 3 ans quand même à écrire ça. Il y a 229 pages. Allez, mettons 228 qui sont écrites. Il y a 230 pages normalement. Et voilà, ben c'est joli. C'est, hein, il vous plaît? Un peu, il est sobre, vous avez vu. Il y a, voilà. Il me plaît bien. Voilà. Alors on verra, après on fera peut-être une version un peu plus chic pour ceux qui veulent. Voilà. Mais là pour le moment c'est juste. Et puis aussi ça va nous permettre de voir, de corriger. Il y a encore quelques coquilles qu'on va corriger avant de. Voilà. Ok, tout va bien. Merci Seigneur. On a passé une bonne semaine, il a fait beau, il a beaucoup plu. Vous avez vu le rosier dans le château, c'est incroyable. Hein, il a presque doublé de volume en 2 jours. C'est la pluie qui a fait ça, hein, c'est terrible. Hein, ça fait du bien l'eau. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, 21-23. 1 Corinthiens 3, 21-23. Je voudrais saluer, je ne fais pas ça d'habitude parce que sinon, faut que je peux pas faire de jaloux. Alors, si je veux saluer les gens qui nous écoutent sur Internet et qui m'écrivent, après, ils vont... Ah oui, bah, il a oublié de me saluer et tout. Alors, ça fait de la peine et tout. Mais je voudrais quand même dire un petit bonjour à mon frère Didier qui passe par une épreuve en ce moment parce qu'il a une difficulté. Il a compris qu'il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et son pasteur fait quelques problèmes. Alors, il faut prier pour lui, n'est-ce pas? Vous n'oublierez pas, il s'appelle Didier. Alors, je voudrais lui dire un petit bonjour. Vous lui dites bonjour aussi.
Bonjour.
Voilà, que Dieu te bénisse, Didier. Et prends courage, prends courage. Le Seigneur peut tourner les choses d'une façon extraordinaire, tu verras. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Je lis. Car tout vous appartient. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas, soit Osborne, soit Michel Jonton, soit n'importe qui. Hein. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, Paul ici s'adresse à des chrétiens. Vous appartenez à Christ. Vous appartenez à Christ si vous avez reçu son esprit. Si vous avez reçu son esprit, vous lui appartenez. Amen. C'est pas plus compliqué. Tiens, Rachel n'est pas là ce soir? Ah, garde le petit, voilà. Donc, si vous appartenez à Christ, c'est parce que vous avez reçu son esprit et vous appartenez à Christ. Et si vous appartenez à Christ, alors tout vous appartient. C'est ce que je lis là. C'est ce que je lis là. Et mes frères et sœurs, je voudrais parler de quelque chose. On a déjà effleuré ces choses, mais je voudrais y revenir quand même. Jésus est Dieu. Dieu est esprit. Et nous, qui sommes-nous? Alors, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas ce que vous percevez comme une structure physique dense. Ce que nous nommons notre corps, qui est sujet aux maladies, qui est sujet à la vieillesse, hein, moi le matin je m'en rends compte, à 60 ans on ne saute plus du lit comme avant, hein, c'est plus, ça grince d'un côté, dans un autre, il y en a qui rigolent dans la salle, ils savent bien, hein. Et puis finalement, bon, la vieillesse, puis après c'est la mort. Notre corps est sujet à tout ça, mais notre corps, en réalité, en fin de compte, quand on a fait toute la comptabilité, il n'est pas réel, mes frères et sœurs. Il n'est pas réel. En tout cas, ce n'est pas vous. Votre corps, ce n'est pas vous. C'est une fausse perception de ce que vous êtes en réalité. Si vous croyez que vous êtes votre corps, il faut que vous changiez votre idée. Votre essence véritable, elle se situe avant votre naissance, et après votre mort, et pour le moment, vous, ben, vous habitez dans un corps. Notre intelligence, elle a perdu, notre intelligence, notre âme, tout ça, ça a perdu tout contact avec le monde de l'esprit en venant au monde. Et notre intellect, il a produit un fruit erroné. Il croit que notre corps, c'est nous. Il faut lui apprendre que c'est faux. Écoutez bien cette phrase. Le corps, votre corps, est à vous, mais il n'est pas vous. Il est à vous, mais il n'est pas vous. En fait, tout est à vous, votre corps compris. Tout est à vous. Autrefois, certains chrétiens méprisaient le corps. Ils voulaient être des purs esprits, mépriser le corps, se laver plus, tout ça. Bon, c'est pas bien de faire ça. Il ne faut pas mépriser le corps. Même si votre corps, c'est le symbole de votre impermanence terrestre, ça se dit ça, le mot impermanence? Oui, ça se dit. Bon, j'ai dû le trouver quelque part, ou alors je l'ai peut-être inventé. Tiens, non, Simone n'est pas sûre qu'impermanence, ça existe. Hein? Non, elle ne l'a jamais vu, non? Bon, on le dit quand même parce qu'on le comprend. Hein? Même si votre corps est le symbole de votre impermanence terrestre, même s'il est le symbole de toutes vos limites, il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas le mépriser parce qu'en réalité, il dissimule une splendeur absolument merveilleuse, la réalité. Votre corps, il voile ce qui est immortel. Il vous voile. Alors, il ne faut pas taper votre corps, il ne faut pas vous battre contre votre corps. Si vous faites ça, vous vous battez contre la réalité que Dieu a voulu pour vous, que vous soyez vous dans le monde matériel. Parce que, bon, vous êtes tout de même un petit peu votre corps quand même aussi, hein, que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher, que vous pouvez sentir. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est que votre corps, c'est juste un vêtement, c'est un voile illusoire qui abrite votre vrai corps. Votre vrai corps, c'est un corps spirituel. Autre est le corps des oiseaux, autre est le corps des poissons, autre est le corps des... Et il y a des corps spirituels aussi, les anges ont des corps spirituels, ce sont des esprits, et nous aussi nous sommes des esprits. Votre corps matériel, il abrite votre corps spirituel, invisible. Allez, je prends le risque d'être traité d'hérétique, je vais dire votre corps subtil. Ce corps de chair et de sang, il abrite votre corps subtil, votre corps spirituel. Lui, votre corps spirituel, il a accès au spirituel, mais pas votre corps. Quand vous dites que vous sentez la présence de Dieu avec vos sens, ce n'est pas la présence de Dieu que vous sentez, c'est des émotions. Votre corps ne peut pas supporter de sentir, il n'est pas fait pour sentir la présence de Dieu. Il peut avoir une réaction émotive, mais... sentir la présence de Dieu. Non. Paul, il exprime ça très bien dans le chapitre 7 de son épître aux Romains, et je vous recommande de le lire tranquillement chez vous, le chapitre 7 de Romains. Et je vais vous faire un résumé de ce qu'il dit là, pour que ça soit bien clair. Parce que des fois, quand on lit Paul, même l'apôtre Pierre, il dit, ouh là là, l'apôtre Paul, il explique ces choses parfaitement, mais c'est un peu compliqué. Alors, je vais faire point par point, en 7 points. D'abord, nous sommes tous nés. C'est ce qu'il dit, hein? Mais c'est vrai, non? C'est vrai? Oui. Ah, la Bible dit la vérité, alors. Hein? Nous sommes tous nés. On est tous nés innocents. Et la loi est intervenue. La loi est arrivée. Elle nous a fait connaître le bien et le mal. Paul dit, si la loi n'était pas venue, si la loi n'avait pas dit « ne touche pas », eh bien, toucher, ça n'aurait pas été mal. Si la loi n'avait pas dit « ne désire pas », eh bien, désirer, ça n'aurait pas été mal. Ça se trouve au verset 7. Donc, vers 12-13 ans, comme nos jeunes qui ont fait leur bar mitzvah le dimanche passé, eh bien, vers 12-13 ans, nous sommes devenus responsables devant Dieu, tous les êtres humains. Nous sommes passés de l'innocence à la responsabilité, pas la culpabilité, à la responsabilité devant Dieu. Et Paul, il dit que comme la loi est devenue une réalité pour nous, nous avons été placés devant la loi, le péché a profité de l'occasion. Vous vous rendez compte comment il dit les choses? Le péché, il parle du péché comme d'une personne. Le péché a profité de l'occasion et il a produit en vous, par le commandement, par la loi, toutes sortes de désirs. Parce qu'il faut bien dire, en dehors de la loi, le péché, il est mort. Mais Michel, qu'est-ce que tu nous racontes? Ce n'est pas Michel, il faut vous en prendre à Paul. C'est au verset 8 qu'il dit ça. Qu'est-ce que le péché alors? Eh bien, c'est un esprit qui prend vie en vous. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas vivant avant, mais il prend vie en vous. Quand le commandement vient, c'est-à-dire à partir du moment où vous devenez responsable devant Dieu au sujet du bien et du mal, l'esprit de péché prend vie en vous. À partir du moment où le péché prend vie en nous, nous mourrons. C'est-à-dire notre esprit, il est séparé d'avec Dieu, c'est fini. On n'a plus cette innocence. Paul, il disait donc, ainsi la loi qui est bonne, qui devrait mener à la vie, s'est trouvée pour moi, me mener à la mort. Eh bien, ça pour nous, c'était la même chose pour nous. On trouve ça au verset 10. La loi, qui est une bonne chose, qui est donnée par Dieu, plutôt que de nous conduire à la vie, eh bien, nous a conduit à la mort. Alors, je résume. Un, nous naissons innocents. Et deux, vers 12-13 ans, la loi nous conduit à la mort spirituelle. Voilà, ça, c'est le résumé. Terrible, mais bien réel. La loi est venue, envoyée par Dieu, pour que le péché apparaisse dans toute sa puissance de péché. On peut dire, Michel, mais c'est une hérésie. Non, 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 c'est Paul qui dit ça au verset 13. Lisez votre Bible et lisez-la bien. La loi est venue, envoyée par Dieu, pour que, afin que, dans le but que, le péché apparaisse dans toute sa splendeur, c'est-à-dire dans toute sa puissance de péché. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi.
Mais Michel, si. Si, c'est comme ça.
Et c'est alors que nous devenons malheureux. Nous devenons malheureux parce que on veut faire le bien, on n'en a pas le pouvoir. On ne veut pas faire le mal, puis on le fait. Ça, c'est la condition de tous les hommes sans Dieu. Ce n'est pas la condition des chrétiens, c'est la condition de tous les hommes sans Dieu. On fait ce qu'on ne veut pas, le péché, verset 15, c'est le verset 15. L'apôtre Paul ne parle pas de lui en tant qu'apôtre Paul en disant « Oh, moi, l'apôtre Paul, je fais le mal que je ne veux pas. » C'est pas ça. L'apôtre Paul avait dépassé ce stade-là, comme chaque chrétien. On ne peut pas se cacher derrière ce verset en disant « c'est là ». Voilà l'apôtre Paul, il disait « Oh, je voudrais bien faire le bien, mais le mal est attaché à moi ». Non, non, ça c'est la position d'avant la conversion. Un, on est né dans l'innocence. Deux, par la loi, le péché a pris vie en nous et nous sommes devenus morts spirituellement, coupés d'avec Dieu. On est dans l'incapacité de faire le bien qu'on voudrait, on ne peut pas, on n'y arrive pas et on est déchiré. On sait que la loi est bonne, on sait que c'est divin, on sait que c'est parfait, verset 16. Mais dans cette sale situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que Dieu a envoyé la loi, que cette loi nous a conduit dans la mort, dans cette sale situation où on est, Paul le dit, ce n'est plus moi qui produis ça, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire le péché, c'est plus moi qui produis. C'est qui alors? Eh bien, il le dit, c'est le péché qui habite en moi. Verset 17. Ah, mais alors il cherche à se culpabiliser? Non. Il dit la réalité profonde de la chose. Maintenant qu'il est né de nouveau, il comprend pourquoi Dieu a permis qu'il tombe dans le péché comme ça, qu'il quitte, qu'il soit déchu de son innocence d'enfant. Et quand on en arrive là, dans ce sale moment de la vie, on sait une chose, si on est sincère, c'est qu'il n'y a rien de bon qui habite en nous. C'est ce que Paul dit aussi. Il n'y a rien de bon qui habite en nous. On le sait. On le sait parce qu'on voudrait faire le bien et on ne peut pas. Verset 18. Vous lirez, vous verrez, c'est exactement ce que Paul dit. Je ne donne pas une interprétation de ce que Paul dit, c'est ce que Paul dit. Paul répète encore, il dit, c'est pas moi ça, c'est pas moi qui fais ça. C'est le péché qui habite en moi qui fait ça. Verset 20. Dans sa condition d'inconverti, dans sa condition d'irrégénéré, dans sa condition d'homme, d'enfant qui est devenu un ado qui a été mis en face de la loi, qui s'est trouvé dans le péché, il dit, mais c'est pas moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas pourri comme ça, c'est le péché qui est venu prendre vie en moi, qui me pousse à faire ça, c'est le péché, ce n'est pas moi. Alors il crie, mon Dieu, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que son corps appartient à la mort, son corps appartient au péché, son corps est devenu une marionnette dans les mains du mal. Qui me délivrera? Verset 24, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes délivrés. parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu seulement pour pardonner nos péchés, mais pour ôter le péché, c'est-à-dire cette vie qui avait pris possession de notre corps, il l'a ôté, il l'enlève, et il redonne vie à notre esprit. Nous naissons de nouveau. Donc, un, je suis né innocent. Mon esprit pur est venu habiter dans mon corps de nourrisson. Je suis né le 5 février 1950. Vous, je ne sais pas quand vous êtes né, mais vous êtes né innocent. Le péché est né en moi à cause de la loi qui était donnée par Dieu. Et il vous a tenu responsable de cela vers 12-13 ans. Troisièmement, quand le péché a pris vie en vous, vous, votre esprit en vous, il est mort. Quatrièmement, le péché a commencé à agir par votre corps et vous vous êtes plus reconnu. Vous avez dit, mais pourtant, j'avais des désirs de justice, j'avais des désirs de pureté, je trouvais que c'était incroyable, le mal et tout, puis voilà, je suis devenu la même chose que les autres. Cinq, crier à Dieu, demander à Dieu, au secours, délivre-moi de tout cela. Six, il me délivre du péché, il ôte le péché, il ôte cette vie qui habitait dans mon corps, il l'ôte. Et mon esprit reprend vie, je retrouve mon innocence de bébé, je suis né de nouveau. Voilà le plan. Voilà pourquoi vous avez un corps. Afin que Dieu se glorifie là-dedans. De cette manière et pas d'une autre, de cette manière-là. C'est là où vous en êtes, mes frères et sœurs. Où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes au point où le péché est mort et maintenant c'est votre esprit qui a repris vie. Vous êtes né de nouveau. Maintenant vous ne pouvez plus dire « Oh, je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché en moi. » Vous ne pouvez plus. Ça, c'était avant votre conversion. Maintenant, vous pouvez. Tout est à vous. Vous pouvez. Vous avez la puissance par le Saint-Esprit qui habite en vous, avec vous. Vous ne pouvez plus dire « Je voudrais bien, soin, mais je peux point, soin. » Non, vous ne pouvez plus. Et l'apôtre Paul continue. Oh, ils ont mis chapitre 8, verset 1, mais c'est la suite de ce qu'il dit. Dans la suite de ce chapitre 7, il dit, « Et maintenant, il n'y a plus aucune condamnation contre un enfant de Dieu, contre quelqu'un qui est en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que le péché est ôté. Cette vie qui est venue prendre l'âme, qui est venue habiter dans votre corps, il est ôté. Ce qui faisait le mal par votre corps est ôté. Alléluia! Amen. Votre corps n'est plus le corps du péché. Ça veut dire quoi? Votre corps n'appartient plus au péché. Le corps du péché, c'est le corps qui appartient au péché. Le mari de Michou, c'est moi. Attendez, le mari de, ça veut dire il appartient à. Eh bien, le corps du péché, ça veut dire le corps qui appartient au péché. Ben, voilà, maintenant c'est fini, il n'appartient plus au péché, votre corps. Il est redevenu votre corps. Le corps de votre esprit, pas le corps de l'esprit du péché. Votre corps n'est pas vous, mais il est à vous. C'est vous qui le possédez. C'est plus le péché qui le possède. C'est vous qui possédez votre corps. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair, mes frères et sœurs. C'est clair. J'aime comprendre le plan de Dieu. Votre esprit est en harmonie avec l'esprit de Dieu à tel point que le Saint-Esprit de Dieu désire ardemment venir habiter en vous, dans votre corps. Et votre corps est maintenant le temple de Dieu. C'est le plus beau temple qu'on puisse voir sur cette terre. C'est votre corps. Je veux dire, oui, mais une drôle de gueule, le temple. Mais peut-être. Peut-être. Mais c'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu, il ne connaît pas la naissance. Il ne sait pas ce que c'est que de naître. Il ne sait pas ce que c'est la mort non plus. Et il est venu se lier à vous. Il a toujours été lié à vous. Mais il est venu se lier à vous pendant que vous êtes sur la terre dans votre corps. Maintenant, il habite dans votre corps. Et dans votre corps, il est conscient des problèmes qu'occasionne votre corps, parfois. Il en est conscient parce qu'il vit dedans, comme vous. Il vit dedans. Mais est-ce que vous croyez qu'il est conscient que de ça? Non. Il est conscient de votre présence dans votre corps. Dans ce corps, vous êtes là et Jésus est conscient de votre présence. Est-ce que votre esprit est conscient de la présence du Saint-Esprit dans votre corps? C'est ça la grande question. Il est conscient de la présence de votre esprit. Beaucoup de chrétiens demandent, « Oh, viens Saint-Esprit !» Mais comment voulez-vous qu'il vienne? Il est déjà là. Si je dis, « Ah, prions pour que notre frère Stéphane vienne à la chapelle ce soir. Qu'est-ce que vous allez dire? Que je suis un idiot, qu'il est là. On n'a pas besoin de prier pour qu'il vienne, il est là. T'es là ou t'es pas là? Esprit de Stéphane, parle. Il est là. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on demanderait au Saint-Esprit de venir alors qu'il est là? Il habite dans votre corps. Mais est-ce que vous en êtes conscient? C'est ça la grande question. Saint-Esprit en vous, il vous aime, vous. Il aime votre corps, il n'y a pas de problème. Mais il vous aime, vous, c'est-à-dire votre esprit. Votre esprit, il aime votre collaboration, la collaboration avec votre esprit. Il aime collaborer avec votre esprit pour dompter votre corps, pour guérir votre corps, pour l'aider, pour le soulager. Votre esprit est l'esprit de Dieu. Dans votre corps, c'est une équipe imbattable, mes frères et sœurs. Encore faut-il en être conscient. Encore faut-il en être conscient. Alors la clé pour la bénédiction, c'est d'être conscient. D'être conscient que vous n'êtes pas votre corps, il est à vous, mais il n'est pas vous. Sentez-vous, vous, tel que vous êtes, c'est-à-dire un esprit éternel, c'est-à-dire un esprit momentanément incarné, un esprit qui, un jour dans l'éternité, s'est volontairement avancé pour dire, oui, moi je veux aller m'incarner au 21e siècle, au 20e siècle. Je veux volontairement, votre esprit est venu s'incarner dans ce corps qui est le vôtre aujourd'hui. Alors arrêtez de murmurer, arrêtez de rouspéter, vous l'avez choisi. Soyez le meilleur ami de votre corps. Soignez-le, soulagez-le, donnez-lui le meilleur. N'exigez pas de lui trop d'efforts. Je ne parle pas aux flemmards, hein, parce que les flemmards, il faudrait en mettre un peu plus. Mais les autres, là, il y en a, ils font trop, là. Il ne faut pas exagérer. Il faut respecter l'âge de votre corps, votre esprit. Moi, je suis toujours un gamin. Moi, mon esprit, il est éternel. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Il n'a pas d'âge, mon esprit. Il demeure toujours le même, vif. Mais mon corps, non, il ne veut plus. Alors, il faut le respecter. Il faut respecter l'âge de votre corps. Aimez-le. Parlez-lui. Dites à votre corps, remerciez-le de vous avoir véhiculé toutes ces années. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Hein, regardez vos pieds. On dit toujours, on les insulte, nos pieds. On dit, oh, je suis bête comme mes pieds. Mais dis donc. Mais parlez à vos pieds. Oh, dites donc, merci de m'avoir supporté toutes ces années. Bon, je vais te soigner un peu. Je vais t'emmener chez la pédicure. C'est gentil, non? Mais plutôt que de rouspéter, dire ouais, toujours murmurer, rouspéter. Remerciez-le de vous avoir véhiculé toutes ces années. Priez pour votre corps avec amour. Mes frères et sœurs, tout est à vous, dit l'apôtre Paul dans le texte qu'on a lu, 1 Corinthiens 3, 21, 23. Votre corps est à vous. Il n'est pas vous, mais il est à vous. Et le jour vient où Dieu va le transformer totalement, le glorifier. Alors en attendant, ben attendons. Puis ne murmurons pas, ne rouspétons pas. Tout ce qu'on dit de désagréable, notre corps il accuse tout ça. Il n'est pas content. Dieu il sait pourquoi votre corps il est comme il est. Votre esprit aussi il sait pourquoi votre corps il est comme il est. Parce que vous avez décidé ça, vous, votre esprit et Dieu, vous avez décidé ça dans votre passé éternel. Donc le corps que vous avez, c'est celui que vous avez choisi. Ah ben dis donc, on fait une boulette ce jour-là. Mais non, ça sert à quelque chose. Ne murmurez pas. Aimez votre corps, aimez-vous, bénissez-vous, soignez-vous, donnez-vous du repos, faites tout le bien pour vous aussi. Ne pas être égoïste, mais un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent aller. Et votre âme, votre intelligence, elle commence à apprendre ces choses. Elles ne savent pas. Votre intelligence, elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas ça. Votre intelligence, elle pense, voilà, ça c'est moi. Non, c'est pas, c'est juste à toi pendant un moment. Ton corps est à toi. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Et la boucle est bouclée. Un jour, il reviendra et il nous transformera. On aura un corps glorieux. On n'aura plus de corps aux pieds, tout ira bien, on n'aura plus bobo, on n'aura plus des kilos en trop, on sera bien, nez qui sont trop maigres, nez qui sont trop gros, tout ce qu'on... Ah, y en a qui souffrent terriblement dans leur corps, mais mon Dieu, cessez de murmurer, invoquez le nom du Seigneur sur votre corps, bénissez votre corps, parlez-lui gentiment, bénissez-le, c'est la clé mes frères et sœurs, Amen. Merci Jésus de bénir ces moments. permettre à mes frères et sœurs de prendre vraiment conscience de qui ils sont réellement et comment ils habitent dans ce corps qui leur a été prêté pendant un temps, et que ce corps-là, il sera transformé, glorifié, magnifié. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de ce jour qui vient. En attendant, ben voilà, on vieillit, on s'arrange pas, hein, mais bon, c'est, on le sait, c'est la vie, c'est normal. Ben, Seigneur, que ça se passe le mieux possible et que nous puissions toujours, toujours en toute situation te louer, te bénir, parce que nous ne voulons pas faire le jeu de l'ennemi et nous plaindre de ce que tu as créé. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Amen. Amen.